merci à tous de cet honneur. J'ai été touché, j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'attribue le prix à un certain nombre, l'amitié d'un certain nombre de personnes dans cette pièce. J'en vois certains et je les en remercie. J'attribue peut-être un petit peu à une partie de un certain nombre de choses que j'ai fait dans ma carrière. Et j'espère que je peux l'attribuer à ce que sera le futur de ma carrière, parce que donc je dessine une espèce de cadran magique sur lequel il y a action et réflexion, et passé et futur. Et donc je préfère l'action à la réflexion, qui est un intellectuel, et je préfère le futur au passé. Donc c'est là-dessus que je voudrais me focaliser. Donc je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, mais plutôt le futur que le passé. Donc très rapidement, donc je suis, comme vous tous, un ancien universitaire, sauf que vous l'êtes encore la plupart. J'ai été chercheur à l'INRIA et professeur d'université avec certains. J'en garde des souvenirs excellents. Et j'ai été très content aussi d'arrêter. Ce que j'ai fait il y a une vingtaine d'années, où j'ai commencé à passer à la création d'entreprise. J'en suis aujourd'hui à la cinquième. Donc il y en a certaines que j'ai créées et que je n'ai pas dirigées. Il y en a que j'ai dirigées et pas créées. Il y en a que j'ai dirigées et créées, etc. Donc j'ai fait tout. Et puis j'en ai qui ont marché et d'autres qui se sont totalement plantés. Donc je sais ce que c'est qu'un dépôt de bilan, et c'est une vraie expérience intéressante. Et là, en ce moment, je dirige une entreprise qui s'appelle Data Publica, qui est une start-up qui a 4 ans d'existence, qui a pivoté, on appelle ça pivoter au début, donc on part avec une idée, elle marche pas, on jette tout, on recommence. Et on a pivoté 2-3 fois, et il y a 2 ans, on a trouvé notre modèle économique, et notre modèle technique autour de quelque chose qui s'appelle le marketing prédictif. Alors le marketing prédictif, c'est un terme qu'on a inventé il y a 2 ans, on s'est mis autour d'une table, comment on va appeler ça, et on a inventé ce terme et on l'a propagé pendant un bout de temps. En France, on était numéro 1 sur Google, quand vous tapiez marketing prédictif, ce qui, ah, il faut que je reste là pour un... C'est bon. Voilà. Donc, et alors qu'est-ce qu'on fait en marketing prédictif? Donc les gens du marketing, qui sont indispensables dans toutes les entreprises, leur boulot consiste à aider à générer des prospects. Un prospect, c'est quelqu'un qui va devenir potentiellement votre client. D'accord? Donc un prospect, on est gentil avec le prospect, on parle gentiment au prospect, on comprend le prospect, on fait ce qu'il fait. Et le prospect en général se conduit comme un ours, il vous fait attendre, il vous fait poireauter, mais vous continuez à sourire au prospect, etc. Donc le boulot du marketing, c'est d'identifier des prospects et de fournir ces prospects à la vente. D'accord? Et les commerciaux et les marketeurs s'entendent mal parce que les marketeurs disent « je lui ai filé des super prospects, il a été un fichu dans moi, quoi que ce soit ». Et les commerciaux disent il me file que des leads pourris, ça vaut rien du tout, je peux pas vendre. Même chose avec les techos, bien sûr, chacun des techniciens disant comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à vendre de produits extraordinaires chez Construit, et les ingénieurs disent, les commerciaux disant si construisez vraiment le produit dont le marché a besoin, j'arriverai à le vendre. Voilà. Donc ça, c'est ce tripode existe là-dedans. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait là? On aide les gens du B2B, business to business, donc les gens qui vendent aux entreprises et pas aux consommateurs, donc pas Carrefour et Facebook, mais les gens qui vendent de la comptabilité, du logiciel ou des choses comme ça. On les aide à identifier leurs clients potentiels par du big data. D'accord? Alors, big data, ça veut dire que on part des 4 millions d'entreprises françaises existantes qui ont une activité. Les données sur ces gens-là se trouvent chez Infogreff et à l'INSEE. Elles étaient jusqu'à maintenant payantes, elles sont en train de devenir gratuites grâce à M. Macron. Donc tous les soirs, je brûle un cierge pour Emmanuel Macron. On récupère ces données, donc ça c'est les données faciles que tout le monde a, et on fait ça depuis le 20e siècle. En revanche, quand vous voulez des informations sur les entreprises, vous allez les trouver sur le site web. Donc le travail consiste à partir de l'identification d'une entreprise et trouver son site web. Travail qui est très facile à faire à la main, extrêmement difficile à faire par un robot. Essentiellement parce que l'adresse de la société n'est pas toujours là où est le siège. Le nom de la société, le bar du coin en général, ça va être un truc comme SRC Service ou un truc comme ça. Alors, on trouve l'ensemble des sites web des entreprises françaises qui en ont. Nous, on pense qu'il y en a 700 000 à peu près. Donc, une fois qu'on a trouvé les 700 000, qu'on les a correctement rattachés à leur entreprise, on aspire le contenu, c'est-à-dire tous les matins, on crawl 10 millions de pages pour mettre à jour ce pataquès-là. On fouille dans le contenu pour trouver les réseaux sociaux d'entreprises, d'individus. Et on pique ensuite tous les signaux sur les entreprises émis par ces réseaux sociaux. Et enfin, on rajoute les informations sur les médias. Donc tout ça, on agrège ça, ça fait du big data, donc ça fait quelques téraoctets, c'est pas fabuleux, mais ça commence à être raisonnable. Et là-dessus, on applique de la data science pour essayer d'extraire les informations. Et pour schématiser complètement, pour comprendre qui sont vos clients, notre slogan c'est « Je sais qui sont vos prochains clients oh. ». Donc, donnez-moi la liste de vos clients. Donc sur tous ces clients, je vais avoir déjà toutes les données dans ma base et je vais trouver tous les gens qui leur ressemblent. Donc je fais de la reco comme fait Amazon ou Netflix, mais au lieu de dire si tu as aimé ce livre, tu as aimé ce livre, j'aimerais ce livre, moi je fais si tu as vendu à ce client, tu as vendu à ce client, tu vendras à celui-là. Alors, de temps en temps, ça marche exceptionnellement bien, très très bien. Et des fois, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc on bosse là-dessus. On est 20, on vend à des grands comptes et à des PME, on s'amuse énormément, on fait beaucoup d'apéros le soir, les gens travaillent beaucoup, et on est en train d'attaquer l'étranger, Angleterre, Belgique, États-Unis. Voilà l'histoire de mon futur. Donc c'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Ensuite, un tout petit mot sur la CIF et la relation avec les industriels. Alors, donc moi je suis un ancien chercheur, j'ai toujours cru que la techno pouvait aider les entreprises à réussir, les startups devraient réussir grâce à des technos développés par la recherche académique et autres. C'est difficile à faire, vous le savez tous, hein. Sacha a bien donné tous les exemples où voilà, ça passe pas, ou ça aurait pu passer, ça passe pas, etc. etc. Alors, moi je pense que c'est un gros sujet, c'est un des sujets de la CIF, ou un de nos sujets, ça veut dire, de trouver le moyen de faire marcher industrie et recherche. Et je vais vous expliquer un problème qui s'est produit, donc entre 1995 et 2005, la productivité de développement de logiciels a été multipliée par 10. D'accord ? Vous savez, vous ne savez pas, vous réfléchissez bien. C'est-à-dire que en 95-2000, on mettait 3 ans pour développer tel logiciel. En 2005-2010, on mettait 3 mois. D'accord ? Curieusement, ce n'est absolument pas arrivé par tous les travaux sur le génie logiciel. C'est arrivé par un tas d'autres choses, comme le net, le logiciel libre et tout et tout. Mais c'est ce phénomène-là qui s'est produit, qui a fait que l'informatique est devenue un truc unique et particulier, notamment qui fait du truc assez jetable. D'accord ? Parce que quand vous avez passé 3 ans à développer un truc, c'est un problème, vous y êtes accroché. En revanche, quand vous avez passé 3 mois, j'ai passé 3 mois, ça marche pas, ça marche pas, je le jette, je recommence. D'accord ? Donc on est passé au mode Kleenex, d'accord ? Pour le développement de logiciels, et c'est ce mode Kleenex qui a fait naître un truc qui s'appelle les accélérateurs. Un accélérateur, c'est quoi ? C'est un lieu dans lequel on fait venir des groupes de gamins qui ont, c'est un peu énormément, entre 20 et 25 ans, qui en général ne savent pas grand chose, mais qui en 3 mois vous pondent un truc dont parfois, une fois sur 3, une fois sur 10, marche et fonctionne. Et en 3 mois, ils ont un truc qu'ils peuvent montrer, démontrer, ils se font financer, ils passent à l'étape d'après. Alors, Si vous regardez les accélérateurs, d'abord ils sont effectivement arrivés au milieu des années 2000. Techstars et Y Combinator sont nés en 2005. Alors c'est pas vieux ça. Et ce concept-là est né à ce moment-là. Et tout ça, ça questionne les chercheurs techos que nous sommes, parce qu'ils font ça à partir de rien. Moi, je me rappelle les premiers trucs qu'ils m'ont montré. Ils m'ont dit, je vais faire de la reconnaissance d'entités nommées, comme ça, comme ça. J'ai dit, c'est pas sérieux, il va pas y arriver. Et bien, 6 mois après, il y était arrivé. D'accord? Alors, donc, on a fait. Ils développent à toute vitesse, hein, ils ont cette capacité à faire plein de choses. Et ça veut dire que toutes les startups maintenant pivotent à une vitesse impressionnante. C'est-à-dire qu'ils partent avec un modèle, ils essaient, ça ne marche pas, on jette, on recommence et on passe à autre chose. D'accord ? Donc l'échelle de temps, c'est 3 mois. On expérimente. Donc le long terme est 3 mois. Et face à ça, dans la recherche, le long terme, vous, c'est 3 ans égale une thèse. Moi, chaque fois que je vais voir un de mes anciens copains universitaires pour dire est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, il dit eh bien, écoute, on va prendre tes arbres et en 3 ans, on va te résoudre ton problème. Moi, 3 ans, ça n'existe même pas. C'est-à-dire, si je réfléchis il y a 3 ans à ce qu'on faisait dans Data Publica, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans 3 ans, on fera un truc. Voilà. Donc, face à ce développement agile, hein, les méthodes agiles sont à la mode, je plaide pour une partie de recherche agile. D'accord. Donc je ne plaide pas pour le systématique un truc à toute vitesse et tout. Je sais qu'il y a un travail de fond qui doit être fait, qu'il y a de la recherche fondamentale, qu'elle prend du temps, que la formation ça prend du temps et tout. Et une partie de cette recherche devrait être agile et dynamique. Et là-dessus, je m'arrête. Et je vous remercie encore.